Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans cet avant en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut avec tout, à tous les cinq.
Bonsoir.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Le retour d'un rendez-vous qui avait beaucoup manqué, le marathon de Paris, c'était hier et il n'y avait que des explosions de joie, vous le verrez.
Mohamed, votre story du jour.
Qu'est-ce que vous feriez avec 220 millions d'euros, Babette?
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Eh bien, on s'est posé de la monnaie. On s'est posé la question après le jackpot de l'Euromillion vendredi et c'est un Français qui a gagné.
Pierre, dans votre œil ce soir.
Je vous emmènerai faire un petit tour dans le monde sensible, poétique, souriant et universel de Jean-Jacques Sempé, l'un des deux pères du petit Nicolas.
Patrick, dans votre édito du jour.
Pour baisser les prix de l'essence, il faudrait une usine à gaz.
Et Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir.
Vous apportez des bonbons.
Oh.
Des bonbons au CBD. Attention, Mohamed, premier salon du CBD en France et c'est à vous y était.
Le CBD
Alors, c'est du cannabis sans l'effet du cannabis. C'est du cannabis qui serait juste un effet détente et pas d'effet planant.
Ce qui évoquait très sérieusement la curiosité de notre invité Michel-Édouard Leclerc. Et c'est le sujet qu'on évoque jusqu'à 20h avant de recevoir Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve et Patrice Lecomte autour d'une truite marinée et de choux multicolores. Imaginée ce soir par notre chef lyonnais, Harold Dimbault, chef propriétaire du bistrot Frasarin à Lyon. Bonsoir, cher Harold.
Bonsoir à vous. Merci de m'accueillir ici sur le plateau. Ce soir, je vais essayer de transmettre le concept de notre restaurant via un plat qu'on fait au restaurant en ce moment, qui est une truite de l'Isère, marinée, légèrement fumée, avec une petite crème de réfort et des légumes de saison.
Merci beaucoup. À tout à l'heure. Mais d'abord, l'édito de Patrick Cohen. Les prix des carburants à la pompe continuent de grimper.
Oui, conséquence mécanique de l'envolée du pétrole. $60 le baril en août, $85 aujourd'hui. Les prix à la pompe ont encore grimpé de 2 centimes la semaine dernière. En moyenne, près d'1,55€ le litre de gazole, record absolu. 1,63€ pour le sans-plomb le plus consommé, le 10, et 1,66€ pour le sans-plomb 95, à 1 centime de son record du printemps 2012.
Que faire ?
Eh ben, première solution, ne rien faire, laisser filer et se réjouir de cette hausse, c'est l'option Sandrine Rousseau.
Sur les 5 années, il faut augmenter le prix de l'essence. Mais bien sûr que je le maintiens.
Voilà, Sandrine Rousseau qui réclame un plan en 5 ans pour se passer complètement de l'essence. Mais en attendant, dans l'immédiat, chacun défend sa solution. En résumé, soit une baisse des taxes pour tout le monde, soit un chèque carburant pour les plus modestes.
Avec moi, pour un plein de 40 litres, il y aura 8 euros de moins de prix à la pompe.
Il faut baisser de 50 centimes le prix à la pompe.
Bloquons les prix.
Il faut toucher les taxes sur l'essence.
Une fiscalité juste, ouais. C'est quand l'intégralité est reversée aux personnes qui sont dépendantes. C'est le chèque énergie.
Je suis davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant plutôt qu'à une baisse de la fiscalité.
Alors, baisser les taxes, c'est le plus simple à mettre en œuvre, mais pour quel résultat ? 1 centime de taxe en moins par litre, si la baisse est bien répercutée par les distributeurs, ça coûterait 500 millions d'euros aux finances publiques, 5 centimes, 2,5 milliards, 20 centimes, comme le propose Marine Le Pen, on vient de l'entendre, 10 milliards d'euros, une fortune qui profitera à tout le monde, y compris à ceux qui ont les moyens de payer et qui ne renonceraient pas à leur week-end en SUV, même à 2 euros le litre. Enfin, cela revient à subventionner le pétrole, qui représente à peu près 30% de nos émissions de gaz à effet de serre en France, 15% pour les transports de particuliers, dévastateur à quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow.
D'où la solution étudiée par le gouvernement d'un chèque carburant sur le modèle de ce que Xavier Bertrand a mis en place dans sa région, les Hauts-de-France.
Exactement, mais l'exemple des Hauts-de-France montre que ce n'est pas si simple. L'ex-Nord-Pas-de-Calais a donc ouvert depuis 2016 une aide aux automobilistes modestes qui vivent dans des endroits mal desservis par les transports en commun, donc les zones rurales. En gros, un chèque carburant de 20 euros par mois, 60 euros par trimestre, mais sous condition, posséder une voiture ou une moto, être salarié, gagner moins de 2 fois le SMIC, donc moins de 2500 euros net, et travailler à plus de 20 km de son domicile. Au départ, c'était 30 km, ou bien en horaire décalé. 48 000 demandes ont été déposées cette année, soit un peu moins de 3% des actifs de la région qui se rendent au travail en voiture, c'est-à-dire pas grand monde. Si la mesure doit être étendue à toute la France, il faudra forcément se poser la question des retraités, des indépendants, des parents au foyer et tous ceux qui gagnent peu et roulent beaucoup par nécessité. Là, ça fait du monde et c'est compliqué à cibler. Bref, pour stopper l'envolée de l'essence, le gouvernement a le choix entre un geste coûteux mais assez invisible, la baisse des taxes, et une usine à gaz.
Bonsoir Michel-Édouard Leclerc.
Bonsoir.
Président du comité stratégique des centres Leclerc, merci de votre présence ce soir. Alors que vous avez annoncé aujourd'hui que jusqu'au 30 octobre, vous vendrez le carburant à prix coûtant dans toutes vos stations-service, à part sur les autoroutes. Ça va donc durer 12 jours et après terminé. Pourquoi ? Parce que vous seriez hors la loi ?
Non, en fait on était pratiquement à prix coûtant. Mais c'est un peu la réponse du berger à la bergère.
C'est-à-dire à Barbara Pompili,
oui.
Voilà, la ministre de la transition écologique.
Comme elle a introduit, malgré elle, ou en tout cas ça a été repris comme ça, que les distributeurs pouvaient se sucrer sur l'inflation, je me suis dit que dire le contraire, être sur la défensive, ce n'est pas la bonne méthode. Donc j'ai fait à l'envers, en se mettant à zéro. Mmh. Et alors que le prix va continuer à évoluer, j'explique la... Je ne cherche pas la déresponsabilisation, on participe à l'effort collectif, mais de l'autre côté, ça renvoie à l'État...
Parce qu'au terme de ces 12 jours, vous renverrez la balle au gouvernement en disant « c'est à vous de trouver une solution ».
On était entre 1 et 2 centimes de marge, et comme c'était pas... On ne me croit pas forcément, en se mettant à zéro et c'est contrôlable.
Donc voilà. Votre prix coûtant, ça ne se verra pas non plus, quasiment.
Non, mais, vous savez, non, mais honnêtement...
Oui, c'est concrètement, une ça veut dire quoi pour les consommateurs ?
C'est une opération, bien évidemment. Pour moi, ce qui est important, le carburant, c'est un marqueur historique du pouvoir d'achat. Et en fait, et pour les Français, pour les automobilistes, mais dans une période où l'inflation revient...
Tous les domaines, on le verra après.
C'est un marqueur très fort. Et comme je vois que... Parce que je suis à la tête d'un observatoire où on voit l'inflation arriver sur les produits industriels, sur l'augmentation des transports, sur toutes les formes d'énergie et les matières premières. Donc il va y avoir une inflation de 4%. Il va se passer exactement comme ça se passe en Allemagne ou aux États-Unis. Ça va monter à 4%, 5% mensuel. Je ne sais pas si c'est durable. Il y a une part de spéculation là-dedans, mais ça va impacter. Et le carburant, c'est interpeller sur le carburant, c'est interpeller sur l'inflation. Et pour moi, c'est ça qui est important aujourd'hui.
C'est très différent. Hein. C'est ni les carburants, ni les prix alimentaires. C'est pour l'essentiel les loyers, les voitures d'occasion.
Non, c'est ce que... Justement, je voudrais attirer votre attention là-dessus. En tout cas, je prends date. Les économistes raisonnent sur le passé. Ils raisonnent sur la statistique. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes, en tant que groupement d'achat, mais c'est vrai chez Intermarché, chez Système U, chez Carrefour, on voit arriver toutes les demandes d'augmentation tarifaire. Il y a plein de vecteurs comme ça qui sont qui ont de la rationalité. Hein, vous êtes industriel, vous êtes pris entre un marché des le blé augmente de 35%, le plastique, le PET avec lequel on fait des bouteilles aujourd'hui, il augmente de 30%, le coton augmente de 20%, le cacao et le café augmentent de 40%. Vous ne le voyez pas encore.
À partir de quand on le verra ?
Ben là, de maintenant au mois de février, pour nous, 25% de notre chiffre d'affaires, 25% de la totalité du chiffre d'affaires, Leclerc c'est près de 50 milliards, on a des demandes de hausse tarifaire en moyenne de 5%. Donc on ne les a pas toutes reçues. Donc en parlant du carburant, ce produit iconique pour ou contre le pouvoir d'achat, d'abord Leclerc essaye d'être du bon côté dans la bagarre qui va avoir lieu, quoi, du côté des consommateurs. Mais en même temps, c'est un appel en disant attention à la reprise. Si on perd la confiance, ce n'est pas simplement les gilets jaunes au rond-point, c'est l'ensemble de la consommation française qui peut louper sa reprise. Quoi. Et donc, c'est ça, cette publicité. On est prêts à faire
cette
le job.
C'est une publicité. C'est de la pub.
Oui, bien sûr.
Pour faire venir aussi dans vos centres Leclerc.
Oh, on n'en est plus là. Allez, on marche bien. Ce n'est pas le sujet. Ouais. Le sujet, c'est qu'il ne faut pas casser ça. Vous voyez, je vois ça. L'État a dépensé beaucoup d'argent pour que l'économie française... Ouais, moi, je ne suis pas contre. Hein, et quand même, en termes de pouvoir d'achat comme en termes de croissance, il n'y a pas beaucoup d'entreprises en faillite déclarées aujourd'hui. L'économie tourne. Et donc, avoir mis autant d'argent pour faire marcher l'économie et se faire prendre par une bouffée d'inflation, surtout si on dit que ce n'est pas durable, c'est trop bête. Et donc, voilà, c'est une offre de service. Bon, je ne sais pas si c'est l'effet du CBD que vous m'avez fait manger, là, mais moi, je me sens volontariste.
Vous n'êtes pas sûr d'être dans votre état normal.
Si, si.
Mais vous avez accepté de vendre à prix coûtant parce que vous avez été chatouillé, en gros, par
c'est une manière
ce que
de
vous
répondre,
a demandé la ministre de réduire vos marges. Ouais. C'était il y a 6 jours. C'est pour ça, en fait, ça vous a chatouillé. Ouais,
Oui, bien sûr, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Vous avez plein de fiches comme ça avec mes citations.
Non. Oui, nous avons été chatouillés. Oui,
on a été chatouillés parce qu'en général, le politique interpelle le distributeur pour les prix agricoles, pour la rentrée scolaire, etc. Et là, franchement, on n'en avait pas sous le pied. Donc aujourd'hui, moi, c'est clair, le prix des carburants, ça va s'ajouter à l'augmentation du prix de logement, ça va s'ajouter au prix du gaz, l'électricité, toutes les dépenses contraintes augmentent. Alors, je ne fous pas le feu avant les j'alimente pas les polémiques présidentielles. C'est simplement comme ça se passe dans nos magasins, c'est sous notre enseigne. C'est jamais les industriels ou les politiques qui assument ces hausses de prix, c'est chez nous que ça se passe. Et donc je prends position pour une politique anti-inflationniste pour ne pas gâcher tout le travail qui a été fait.
Alors quelle est la bonne solution ?
Moi je suis clairement pour que passer un certain seuil l'État, comme il l'a fait pour le gaz, l'État garantisse qu'il ne prélève pas plus de taxes. C'est voir qu'il en restitue.
Les baisse.
Ouais. Parce que ça s'additionne. C'est pas simplement le carburant. Quand vous dites celui qui est propriétaire de 4x4,
oui, mais c'est le cas,
etc.
Parce que ça va pas, pas favoriser. Ça va favoriser tout le monde, indifféremment, ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas.
Franchement.
Quand on baisse les taxes, c'est ce qu'a expliqué Patrick.
Le propriétaire de 4x4, il s'en fout du prix de.
C'est bien ça.
Par contre, si on veut pas l'usine à gaz, sachant que l'usine à gaz coûte. Le gaz flambe aussi, il faut bien faire quelque chose. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus lisible pour les consommateurs, c'est la baisse des taxes. C'est le plus lisible.
C'est le plus cher aussi.
Mais ce n'est pas un coût, c'est un manque à gagner pour l'État. Parce que l'État gagne pendant l'inflation. Enfin, l'État, c'est nous, hein, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, les taxes, le produit des taxes...
18 milliards d'euros pour...
Ouais. Donc pour moi, la bonne réponse, la bonne réponse est une réponse politique. Voilà, c'est pour l'État comme pour moi. C'est pas l'essence en lui-même qui est important. C'est la bonne réponse, elle est politique. Et c'est un commerçant qui le dit. Hein,
mais votre collègue de Système U qui était
pareil,
là.
Pareil, Dominique Schœlcher.
Lui, il est pour le chèque.
Ah, il est pour le chèque.
Ah, il est pour le chèque.
Oui, il est pour le chèque.
Pas pour la baisse des taxes.
D'accord. Plus égalitaire, voilà.
Et comme on achète ensemble le carburant, il faut qu'on se dispute un peu tous les deux.
Et pour les denrées alimentaires, quelle est votre marge de manœuvre ? Et comment faire en sorte que les prix baissent ou n'explosent pas, en tout cas ?
Alors, sur les denrées alimentaires, on a promis au monde agricole de maintenir la logique de valorisation. Ils sont partis depuis les états généraux de l'alimentation sur un changement du modèle alimentaire, donc il faut soutenir, si ce n'est surpayer, en tout cas il faut payer à son prix avec des contrats à long terme. Moi je ne touche pas, et on va, les Leclerc, on ne va pas toucher aux produits agricoles. Après, sur le monde des matières premières, même agricoles, les grands marchés qui nous échappent, il faut savoir qu'à la bourse de Chicago, ce n'est pas les usagers qui font monter les cours et qui achètent, ce sont des financiers qui placent dans du stock et qui font grimper les cours. Donc là, on va demander aux industriels la justification de leurs achats. On va leur demander ce que prévoit d'ailleurs la loi Egalim, on va leur demander d'où vient leur volonté de nous faire augmenter les prix de cette importance-là.
Donc ça dépend aussi de leur bonne volonté.
Oui, puis un effet d'aubaine. Il y a déjà, il suffit de lire les communications boursières. Il y a beaucoup de sociétés qui disent déjà à leurs actionnaires qu'ils vont se refaire les marges cette année. Donc on ne peut pas à la fois faire payer le consommateur pour la transition écologique, la transition énergétique, faire payer le consommateur pour les produits agricoles, et c'est nécessaire, et en même temps laisser passer toutes les hausses qui arrivent. Vraiment, je pense que mon métier, je dois l'exercer aujourd'hui avec rigueur, discernement, mais avec force. Les négociateurs dans la distribution doivent reprendre leur place. Et d'ailleurs, dans tous les métiers, les industriels, ils ne vont pas s'enquiller toutes ces hausses non plus. Vous vous rendez compte que le prix des conteneurs, il a augmenté de 85.
Le formidable papier des Échos ce matin là-dessus sur
la hausse. Et dans Challenge la semaine dernière. Et vous regardez les résultats des transporteurs, c'est colossal. Ils se font des blindes. Ouais. Oui, ils se goinfrent. Ouais.
Samedi dernier, avant-hier, les Gilets jaunes avaient annoncé leur intention de revenir sur les ronds-points. Ils n'ont pas été très nombreux, mais dans leurs inquiétudes, on entendait comme un air qu'on vient d'évoquer, un air de déjà entendu, notamment dans la bouche de Jérôme Rodriguez.
Pour un plein de 50 litres, en un an, tu as pris 15 euros. Si tu fais ton plein une fois par semaine, à la fin de l'année, t'es à 720 euros. Est-ce que t'avais prévu ça sur ton salaire de 1300 euros ? Et je te parle que de l'essence. Parce que si t'as une maison et que tu te chauffes au fioul, c'est 400 balles de plus. L'électricité, j'oublie. Les produits de première nécessité, j'oublie. Donc le concret dans la poche des gens, quotidiennement ce qu'ils vont vivre, c'est de l'argent en moins.
Les retours dans vos magasins de ceux qui consomment mais qui ne sont pas contents vous font penser qu'il pourrait y avoir une reprise du mouvement ou ça restera parcellaire parce que les problèmes sont trop généraux ?
Je ne sens pas le mouvement politique et je fais attention moi-même de ne pas l'alimenter parce que je ne vois pas l'intérêt pour l'économie française de se planter là-dessus. Mais par contre, les consommateurs disent depuis longtemps, et les statistiques les démentent, ils disent depuis longtemps que les prix augmentent. Et c'est quand même la réalité. C'est simplement qu'on a changé de modèle. Le bio coûte 40 à 60% plus cher que le conventionnel. Donc celui qui achète du bio, ça lui pompe une partie de sa ressource. Et c'est ça qui est compliqué à gérer. C'est que déjà, tous les écologistes, tout le monde dit qu'il faut savoir payer. Mais en plus de ce qu'il faut savoir payer, tout augmente aussi. Donc c'est pas lisible. Quand le gaz augmente et que le carburant augmente, on peut se dire, bon, c'est le prix à payer de la transition écologique. Je dis pas, il faut l'accompagner quand même. C'est le prix à payer, les énergies fossiles, il faut qu'elles soient à leur prix. Mais il se trouve que l'énergie nucléaire, son coût est indexé sur le prix du gaz. Donc c'est pas lisible. Quand vous achetez une voiture, vous avez un malus sur ce qui pollue et vous avez un bonus sur ce qu'on préconise. Sur les énergies, tout est malus. Vous voyez ? Sur les transports, tout est malus. Donc à un moment donné, c'est pas clair pour le public. Même pour moi, c'est pas clair. Je comprends pas la politique. Je suis pas ultra-libéral, je suis plutôt social-démocrate, mais je pense qu'il y a un besoin de régulation. Et c'est pour ça que je disais que le prix des carburants, c'est politique. Ça doit dire, oui, les énergies fossiles, ça va disparaître, mais il faut accompagner, il faut embarquer les gens, il faut pas le faire contre eux. Sinon, on va avoir la colère. Il parlait fort, le monsieur.
Vous êtes retrouvé dans une situation inédite. Il y a quelques jours, vous avez demandé à vos clients de partir et d'aller chez vos concurrents. Je parle des clients de Leclerc Énergie. Vous étiez lancé dans ce service en 2018 en proposant de l'électricité 20% moins chère que les tarifs réglementés. Mais avec l'envolée des prix du marché, acheter moins cher chez vous, c'est plus possible ?
Non. Alors, c'est justement parce que le prix de l'électricité, moi, je le voyais comme une alternative. Nous, dans les centres Leclerc, on voulait faire de l'énergie verte. On s'était associé à des producteurs d'énergie alternative, avec aussi l'hydraulique en Suisse, Alpiq ou les grands fournisseurs nordiques. Mais à partir du moment, et c'est même étonnant que Bruno Le Maire lui-même saisisse la commission, à partir du moment où le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, on ne peut pas promouvoir et sur le coût marginal des centrales thermiques.
Ce n'est pas le prix du gaz. C'est le coût des centrales. Oui. Européenne, effectivement, le coût marginal, c'est-à-dire la dernière centrale qui doit être utilisée en cas de pénurie. Voilà. Et en l'occurrence, effectivement, ce sont des centrales allemandes ou qui sont des centrales thermiques.
Et donc, du coup, on fait payer aux consommateurs un surprix. Et honnêtement, chez Leclerc, on ne sait pas faire. On ne sait pas acheter plus cher pour vendre moins cher. Donc, en fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a fait marche arrière. C'est aujourd'hui qu'on en parle dans les médias. Mais en fait, c'est dès le mois de juillet que nous avons invité nos abonnés. Personne n'a été lésé. On était en fin de contrat. On n'a pas renouvelé nos achats sur le marché. On n'a pas renouvelé cette proposition. Et la difficulté, c'est que le public nous fait confiance et il ne voulait pas partir. Donc je comprends. Moi-même, j'étais chez Leclerc, donc je suis parti chez Alpiq.
D'autres petits opérateurs pourraient se retrouver dans la même situation. Ça veut aussi dire que les petits opérateurs privés à côté de EDF, c'est
regardez,
encore pas assez solide.
Ils sont tous en train de sauter. Et même Que Choisir, qui s'était associé avec un opérateur, il avait 200 000 abonnés, et l'Union fédérale des consommateurs avait organisé un système d'enchères, ils arrêtent aussi. Et donc, oui, c'est dommage. Alors, on reprendra, mais par contre, il nous faut de nouvelles règles du jeu. En fait, la libéralisation du marché sans vision sur le marché, sans règles, c'est compliqué.
Merci beaucoup.
Je ne sais pas faire.
Merci Michel Audeur-Lecaire. Vous restez avec nous, on va continuer à évoquer l'actualité avec notamment la story de Mohamed Bouafsi.
Explique bien, Patrick.
Salut Mohamed.
Salut Babette, salut à toutes et à tous. Mohamed. Bonsoir.
Votre story du jour est consacrée à un Français heureux, celui qui a gagné 220 millions d'euros vendredi au loto.
Vendredi soir, vers 23h en France, 4 à 6 millions de personnes étaient devant leur télé pour assister au tirage de l'Euro Million. Et près de 50 millions de personnes en Europe attendaient ce résultat. Et c'est un Français qui a eu la chance exceptionnelle de remporter 220 millions d'euros, le plus gros gain de l'histoire en Europe. Ce matin, dans plusieurs tabacs en France, on se posait la question traditionnelle, la même qu'à Venelle en 2009.
C'est pas vous ?
C'est moi. Moi, je pense savoir qui c'est. C'est peut-être une collègue à moi qui joue souvent ici. D'ailleurs, ça fait deux jours que j'ai plus de nouvelles de lui.
La Française ou le Français qui a validé la grille gagnante a 60 jours pour se présenter à la Française des Jeux. Dans la foulée, il sera accompagné par la cellule Grand Gagnant de la Française des Jeux. Anaïs Recouli a rencontré sa responsable.
Nous allons le recevoir donc à la Française des Jeux pour lui remettre son gain. Ça, c'est la première partie de l'accompagnement. Et puis ensuite, dans le temps, et c'est une des spécificités de la Française des Jeux, nous proposons un accompagnement collectif pour une durée de 5 ans minimum avec des ateliers thématiques sur la gestion patrimoniale, la gestion notariale. Ce sont vraiment des informations dont ils ont besoin pour ensuite aller voir leurs experts. Et puis, il y a également des ateliers sur l'accompagnement du changement, le développement personnel, mais aussi des ateliers beaucoup plus inspirants sur la philanthropie, sur la transition écologique, où on donne également matière à réfléchir à nos gagnants.
Alors, que peut-on faire avec 220 millions d'euros ? C'est l'équivalent déjà de 14 573 années à être payé au SMIC. On peut aussi s'acheter Neymar pour le même prix. Pas sûr de l'investissement, hein Pierre ? On peut s'offrir deux Boeing 737 et garder de la monnaie. Le vainqueur peut s'offrir 275 000 kilos de truffes noires du Périgord ou 435 bouteilles de Romanée Conti Millésime 1945, dont une bouteille s'est vendue aux enchères 482 000 euros. Cette gagnante ou ce gagnant peut aussi investir pour ouvrir un hypermarché Leclerc dans une ville moyenne en France. Il faut 10 à 15 millions d'euros. Il pourra donc en ouvrir une quinzaine, si je ne me trompe pas. Sinon, il pourra faire comme un couple de Saint-Michel en Charente qui, après avoir gagné 50 millions d'euros, a décidé d'en faire profiter toute la commune.
Et puis c'est la belle histoire de cette rentrée, un couple de Saint-Michel en Charente qui a gagné la somme de 50 millions d'euros à l'euro million a décidé d'offrir un an de cantine scolaire aux 180 élèves de la commune. Cela représente 70 000 euros, soit 400 euros tout de même d'économie par famille. Ça n'est pas si fréquent, ça méritait bien d'être souligné.
Ce gagnant du gros lot a de la chance. Quoi qu'il arrive, s'il se présente, il pourra recevoir son argent. Ça n'a pas toujours été le cas pour les vainqueurs du jackpot en France, malheureusement.
Aubaine lorsque la fortune se présente avec les 6 bons numéros du loto. Mais à Malville, depuis le 4 février, Janine Letilly vit plutôt un cauchemar. Imaginez un peu, 160 millions de centimes lui sont refusés, tout simplement parce que le double de son billet a brûlé la veille du tirage dans l'incendie du bureau de tabac qui l'avait validé.
Alors c'est affreux. Ouais.
Fallait pas se tromper de tabac. En tout cas, pour cette jeune famille. En tout cas, si vous avez perdu vendredi comme 92% des joueurs, pas d'inquiétude. Dites-vous que vous avez 160 fois plus de chances de mourir à cause d'un astéroïde et 3000 fois plus de chances de mourir foudroyé que de gagner le jackpot à l'euro-million. À ce prix-là donc, autant perdre à l'euro-million.
Vous avez joué Michel et Leclerc ?
Non, mais non. C'était marrant de regarder. Je me demandais qu'est-ce que vous feriez, vous, avec... Pierre, ouais, tu sais, qu'est-ce que tu ferais ?
Ah, j'emmènerais toute ma famille en vacances.
Ouais, mais 220 millions, tu
y a
peux
faire...
Et toi, Pierre ?
Il y a toujours plein de trucs à acheter, mais vu l'âge que j'ai, je penserais à l'avenir de ceux qui sont plus jeunes que moi.
Ouais.
C'est beau. Et sinon, il s'offre Neymar pour la maison.
Oh non, franchement.
Sophie, on monte une chaîne de télé ?
Ah non. Moi, je vais investir dans les centres Leclerc une quinzaine. C'est ça, je peux m'en offrir.
C'est les bons prix. Hein,
ouais,
les bons
mais chers. Ils disent tous qu'avec le digital, l'hypermarché, c'est foutu, tout ça, c'est pas
bon,
un bon placement.
Ah bon ? Alors, vous conseillez pas votre business, alors ?
Mais si.
Ah bon ? Si c'était à refaire, vous le referiez.
Ben oui. Bon. D'ailleurs, j'y suis toujours.
Oui, merci beaucoup.
J'ai commencé à l'âge de Pierre. Mais oui, on a commencé ensemble.
Absolument.
Oui.
Ah, à l'âge de Pierre.
Eh bien oui,
ah,
c'était de l'humour. Ça n'a pas marché.
Non, mais ça, je viens de comprendre. Merci beaucoup, Mohamed, à tout à l'heure pour la story média. C'était hier le grand retour du marathon de Paris, plus de 2 ans après sa dernière édition annulée à 2 reprises à cause de l'épidémie du coronavirus. Et parmi les coureurs, histoire extraordinaire, Alexandre Alain, il est né avec la mucoviscidose. Il a frôlé la mort en 2016. En 2017, il a subi une greffe de ses 2 poumons qu'il a sauvé. 4 ans plus tard, à 26 ans, il a gagné son pari, terminé le marathon de Paris avec les poumons d'un autre.
bienvenue.
Bonsoir Alexandre Alain, merci de votre présence ce soir et bravo pour cet incroyable exploit. 42 km en 5h31.
C'est ça.
5h31, et quel sentiment sur la ligne d'arrivée?
Un soulagement d'être enfin arrivé.
Celui d'avoir gagné une victoire contre la maladie aussi?
Oui, puis de montrer que le don d'organes, ça sauve réellement des vies, car sans cette greffe, c'est sûr que j'aurais jamais franchi cette ligne d'arrivée.
Cette course, vous l'avez préparée pendant 9 mois et vous l'avez vécue aux côtés du docteur Antoine Mugnot, le chirurgien qui vous a opéré, qui vous a greffé ses deux poumons tout neufs il y a 4 ans et qui ne voyait aucun inconvénient à ce que vous couriez ce marathon, au contraire.
Ah oui, non, il n'y avait aucun inconvénient. Enfin, mes poumons, ils sont bien là, ils sont bien accrochés. Et, c'était plus les muscles qui me disaient « Pourquoi tu cours autant ?»
Oui, parce qu'au kilomètre 30, vous avez dû marcher un peu. Ce n'est pas du tout à cause de vos poumons, c'est plutôt votre genou qui vous inquiétait, c'est ça?
Oui, j'ai eu une blessure pendant l'entraînement et donc j'ai quasiment arrêté l'entraînement pendant 6 semaines avant le marathon. Donc c'était plus ça qui me posait question, c'est sûr.
Vous avez couru plus de 1000 km de préparation pour ce marathon, mais il n'était pas question d'abandonner. Vous n'avez jamais douté d'arriver dans les délais parce que vous aviez pris de l'avance dans la première partie du parcours?
C'est ça, c'était un réel plaisir sur les 21 premiers kilomètres, je le savais, puis après les 21 derniers... Un calvaire, mais j'étais bien entouré par mes proches, par Antoine qui m'a greffé. Et donc, j'étais persuadé que j'allais arriver sur la ligne d'arrivée.
Vous saviez surtout qu'au bout, il y avait un plat de pâtes et une bonne bière.
C'est ça.
On n'a pas les plats de pâtes? Ah, c'est dommage, on avait préparé le... Parce que vous avez dégusté. Voilà, on l'a.
Salut tout le monde. Je peux enfin dire, je suis marathonien. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous montrer cette médaille. Merci beaucoup pour tous vos encouragements. Ça m'a vraiment aidé dans les moments difficiles. Et un grand merci à Marie, Romain, Dieu, Olivier, mon chirurgien Antoine, qui m'ont accompagné, qui m'ont poussé à aller au bout. Et donc maintenant, place à la récupération. À très vite.
C'est un formidable message d'espoir à tous ceux qui ont été greffés et pour lesquels la convalescence est difficile. Vous vous souvenez-vous à quel point, juste après la greffe et pendant les mois qui ont suivi, même faire quelques mètres, c'était beaucoup plus dur qu'un marathon?
Ah oui, c'est sûr. Avant la greffe, j'étais à 6% de capacité respiratoire. Donc faire un pas, pour moi, c'était déjà un véritable marathon. Donc maintenant, en faire 42, bah, c'est sûr que ça montre qu'il y a de l'espoir et qu'il ne faut pas perdre de vue que la vie, elle peut quand même nous offrir de belles surprises.
6% de capacité respiratoire en 2016 et aujourd'hui, 108% de capacité respiratoire. Expliquez-nous comment c'est possible. C'est-à-dire que votre cœur, vos poumons marchent mieux que la moyenne.
C'est ça. Selon ma taille, mon poids et mon âge, je suis à 108% des capacités respiratoires que je devrais avoir. Donc comme quoi, ces poumons, ils doivent être bien avec moi.
Vous êtes Batman?
Batman, je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaie d'être un exemple pour d'autres enfants qui sont atteints de la mycoviscidose, comme moi j'ai eu avec Grégory Lemarchal.
6% de capacité respiratoire, ça voulait dire que vous ne pouviez pas respirer. C'est comme si vous aviez en permanence un coussin plaqué sur votre visage.
Ah oui, j'étais totalement à l'agonie. Enfin, c'était de l'oxygène, c'était un fauteuil roulant parce que c'était devenu vraiment trop compliqué, malgré le fait que je ne voulais jamais montrer que la maladie était présente. À un moment donné, faut se laisser aider, c'était pas facile.
Vous toussez 24 heures sur 24, vous enchaînez les séances de kiné, les gestes de la vie quotidienne deviennent difficiles, quasi impossibles. Et puis un soir de juillet 2017, vous le racontez dans cet ouvrage qui est paru il y a quelques semaines, Un souffle d'espoir, vous racontez l'appel. Quand vous recevez l'appel, à la fois espéré et redouté, un greffon est disponible, vous aurez attendu 30 jours au total, ce qui est relativement court.
Ah oui,
lorsqu'on attend un don d'organe, mais long quand sa vie en dépend?
Bah c'est sûr, il faut être dans les 2 heures environ de l'hôpital, il faut être branché à son téléphone 24 heures sur 24. Donc chaque appel, quand on ne sait pas de qui ça vient, on se dit est-ce que ma vie va basculer? Et ce jour-là, je n'ai même pas répondu. Donc,
vous avez vu un appel inconnu, vous n'avez même pas décroché. Non, vous avez attendu qu'on vous laisse un message.
C'est ça.
Mais pourquoi?
Je ne sais pas, je me suis dit, bon, bah, si c'est important, ils rappelleront. Et comme quoi, c'était le jour le plus important de ma vie. Donc,
Les dons d'organes sont anonymes en France, mais vous savez que ces poumons, les poumons que vous avez en vous, sont ceux d'un homme. Un homme auquel vous avez pensé toute la course?
Forcément, cet homme, il n'a pas eu la vie, je pense qu'il aurait rêvé. Et donc, faire ce projet, c'est aussi pour le faire avec lui. Peut-être que je vis plus intensément tout ce que je fais que parce que je vis pour deux.
Vous dites qu'il vous a aidé pendant la course et une fois franchi la ligne d'arrivée, vous avez regardé le ciel.
Oui, j'ai forcément eu une pensée pour cette personne qui veille sur moi et on va encore connaître de nombreuses aventures ensemble, c'est sûr.
Au premier jour de la greffe, vous aviez fait abstraction du donneur, mais c'est au fil de la préparation de ce marathon que vous avez pensé de plus en plus à lui, une part de ce projet. C'était pour lui. C'est pour lui que vous courez.
Ah bah, et quand j'ai vu que le marathon de Paris tombait lors de la journée mondiale du don d'organes, que la personne qui m'a sauvé la vie, Antoine Mugnot, le chirurgien, m'a dit « je le cours avec toi », bah voilà, on n'était pas un duo, on était un trio sur cette course.
Cet homme, ce donneur auquel vous vous adressez dans les premières pages de votre livre, on est un binôme. Je ne sais pas quels étaient tes projets et tes rêves, mais ne t'inquiète pas, des rêves, j'en ai à revendre pour deux. Tu vivras en quelque sorte toute une vie à travers moi. Je parlerai de toi à mes enfants. Je leur expliquerai que c'est aussi grâce à toi que j'ai la chance d'être père. Je te demande une chose, s'il te plaît, restons ensemble pour l'éternité. Ne me lâche pas. J'ai besoin de toi. Je te fais la promesse de vivre pour nous deux. Notre histoire ne fait que commencer. Et vous dites merci. Merci à votre donneur, bien sûr, mais aussi à sa famille qui a choisi de ne pas confronter d'autres familles à la perte d'un être cher. Hier, vous portiez ce dossard 75 397, mais avec un message virtuel en plus, au nom de ces 600 à 700 patients qui, chaque année, en France, meurent faute de don d'organes.
Oui, parce que je ne dis pas qu'il faut être pour le don d'organes, mais en tout cas, en parler, forcément, c'est un peu une discussion qui est un peu anxiogène parce qu'on parle forcément de la mort de quelqu'un. Mais moi, avec mes aventures, je veux parler de la vie. Et le don d'organes, moi, je le résume comme un véritable don à la vie. Sans cette grève, j'aurais pas vu 2018 et encore moins participer au marathon de Paris.
Le message essentiel, c'est qu'il faut évoquer avec ses proches soit son consentement, soit son refus de don d'organes. On est tous présumés donneurs, mais malgré tout, les médecins s'en remettent toujours à la famille, oui, dans les faits.
Dans la réalité, ils iront toujours demander à la famille et ça peut se comprendre, mais moi justement, c'est d'en parler avec la vie. Et j'ai une maman qui m'a dit, moi, s'il arrive quelque chose à mes enfants, jamais je pourrais faire don de leurs organes. Elle m'a dit, en voyant tes aventures, ça m'a fait changer. Et donc, si j'ai pu faire changer une personne, les projets sont réussis.
Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement contre la mucoviscidose. La greffe ne guérit pas de la maladie, mais elle ouvre des horizons incroyables. Vous en oubliez presque aujourd'hui que vous êtes porteur de cette maladie?
Ah oui, moi, c'est juste des anti-rejets à prendre au quotidien, et ces anti-rejets-là, il ne faut juste pas manger du pamplemousse pour les altérer. Donc, donc comme quoi, ma vie, elle est complètement normale.
Complètement normale, et puis les avancées sont nombreuses, la prise en charge s'améliore, c'est-à-dire que le quotidien d'un patient atteint de mucoviscidose n'est plus le même qu'il y a 20 ans ou même 10 ans encore.
Ah non, c'est sûr, moi, en 1997, au diagnostic, on a dit à mes parents que si je voyais l'adolescence, ça serait déjà bien. Bon, j'en ai 26 ans, donc je pense que j'ai passé un peu l'adolescence. Et l'espérance de vie ne fait que rallonger, donc faut pas perdre espoir. Et il y a un papa qui est venu me voir juste avant le départ. Il me connaissait par le biais des réseaux sociaux. Il m'a dit merci, j'ai une petite fille atteinte de la mucoviscidose, et ça nous donne des coups de boost de voir et d'avoir des nouvelles de toi. Donc je lui ai dit vous allez me faire pleurer juste avant le départ. Normalement, vous allez pleurer à la fin, mais voilà, c'est pour ça que je fais ça.
Vous avez couru sous la bannière de l'association Grégory Lemarchal, le chanteur décédé à 23 ans en 2007 de la mucoviscidose. Lui qui n'a pas pu bénéficier d'une greffe justement à temps. Il s'était fait connaître en gagnant la Star Academy sur TF1 en 2004. C'est là que vous l'aviez découvert, vous aviez 9 ans et ça a été un choc.
À la maison, je recevais beaucoup de l'aide. Ça allait de 7 ans à 80, plus de 80 ans. Et ça me plaît beaucoup, enfin ça me touche beaucoup de voir que plusieurs personnes comme ça, de différents âges, puissent être touchées par ma personnalité ou ce que je peux dégager sur scène, parce qu'ils ont vu que je pouvais arriver à quelque chose et ils ont pris exemple un peu sur moi. Et pour moi, c'est un honneur.
C'est pas un vertige?
Un peu.
Vous l'avez vu à la télé, vous avez dit qu'immédiatement, il est devenu votre héros, votre ami et votre inspiration. Vous avez d'ailleurs consacré tout un chapitre de votre livre qui s'intitule « Merci Grégory ».
Oui, parce que c'est lui qui a fait connaître aussi la mucoviscidose quasiment à tous les Français. Et c'était un exemple de se dire, en ayant sa capacité respiratoire, la voix qu'il avait, et on ne l'a jamais vu se plaindre non plus. Et même pendant ses concerts, quand on sait qu'il était capable de faire une séance de kiné entre deux chansons, c'était juste formidable.
Pierre.
Après ces 9 mois de préparation et la performance du week-end, vous avez l'air de vouloir mettre les bouchées doubles. Vous ne pouvez rien dire ce soir, mais vous allez bientôt annoncer un nouveau défi.
Oui, il y a des nouveaux défis qui sont en cours de construction, mais ça prend du temps et je ne veux pas me lancer dans un projet juste pour refaire un autre projet.
On en sera plus vers janvier.
C'est ça.
Et puis, vous allez monter une société d'audiovisuel, là aussi, pour faire des images et faire passer des messages.
C'est ça. Sur ce prochain projet, il y aura tout un documentaire pour montrer l'aspect sportif, mais aussi aller à l'hôpital, rencontrer des enfants. C'est important pour moi, c'est comme un livre, mais là, de montrer à l'audiovisuel, donc c'est important.
Et puis, il y a des images magnifiques de votre préparation. Notamment, vous avez préparé le marathon en plongeant en apnée. Et puis, avant ce marathon, vous aviez fait un tour d'Europe avec une Renault 6, une traversée de l'Atlantique à la voile. Enfin, c'est assez extraordinaire.
Bah, on va dire que j'aime vivre intensément. Et moi, c'est ce qui me rend heureux, en fait. Si je n'ai pas de projet, je m'ennuie. Et donc, les projets, moi, ça me fait vivre.
Un souffle d'espoir, c'est signé Alexandre Alain. C'est le récit de votre parcours extraordinaire chez Hugo Doc et c'est préfacé par Brigitte Macron qui vous avait reçu, qui vous avait rencontré. Elle vous a félicité, la Première Dame.
J'ai pas encore eu d'SMS.
Ah.
On peut faire l'annonce.
Eh ben exactement. Donc on attend un petit SMS de félicitations, Madame Macron. Merci beaucoup, vous restez avec nous. C'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu,
On vous emmène en boîte de nuit, en début de 5 sur 5, une expérimentation à Paris avec une question, peut-on relever les jauges ? Le premier salon du CBD en France, il n'est plus question de fumer ce cannabis, cette molécule, mais peut-être voudrez-vous en manger tout à l'heure. Et puis on cherche un félin sauvage dans le Nord, un genre de chat de plus de 50 kilos. Surveillez au fond de votre jardin, il y a peut-être un puma.
On commence donc ce soir avec un retour à la vie d'avant.
Écoutez. Laurent Garnier, voilà entre autres ce qu'on écoutait hier en boîte de nuit à Paris. Une expérimentation menée par des chercheurs avec l'assistance publique hôpitaux de Paris. Revient la nuit, c'est le nom de ces soirées test. 2200 personnes dans deux boîtes de nuit entre 16h et 23h. Bon, c'est un peu tôt, vous me l'accorderez.
Oui, oui.
Des franciliens vaccinés volontaires pour étudier la circulation des virus. Écoutez, c'est fêtard de la bonne cause.
Ça fait du bien d'avoir une soirée comme avant.
On était tous collés, il y avait énormément de monde.
Dernière soirée en boîte, c'était il y a 2 ans. Bah, je sais pas, avant le Covid, quoi, avant mars 2020.
On a appréhendé un peu parce que c'est une expérience assez différente de d'habitude, mais au final, c'était vraiment génial.
C'était pour aider la médecine à faire rouvrir les boîtes de nuit le plus normalement possible.
Retour à la vie d'avant, sauf pour 2200 autres personnes qui ont promis de rester à la maison. Ça, c'était pour faire un groupe test.
Ah oui.
Ça marche comme ça, la science. Je suis désolé. L'espoir, c'est de pouvoir remonter les jauges de ces soirées à 100% contre 75% aujourd'hui. Alors, pour l'espoir, il ne faut pas trop regarder côté chinois. La Chine qui poursuit sa stratégie zéro Covid et qui va jusqu'à fermer de nouvelles villes, reconfiner de nouvelles zones du territoire dans le Xinjiang, par exemple, où arrivent des témoignages de Chinois enfermés chez eux de l'extérieur. Pas trop d'espoir non plus, des inquiétudes. En tout cas, en traversant la Manche, la semaine dernière au Royaume-Uni, on compte une moyenne de 40 500 contaminations par jour. C'est près de 10 fois le chiffre français. On a levé les restrictions sanitaires tôt cet été là-bas. Souvenez-vous, on parlait du 19 juillet comme du Freedom Day, le jour de la liberté. Résultat, relâchement ostensible des gestes barrières. Beaucoup plus léger en Australie. Le port du masque... toléré si on a une boisson, on peut enlever son masque si on a une boisson, encore faut-il qu'il y ait quelque chose dans le gobelet. Vous voyez ce policier voilà, qui soupèse, qui contrôle le contenu des gobelets pour s'assurer que vous avez bien à boire si vous ne portez pas le masque.
C'est le Covid qui a emporté l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell.
On l'a appris à la mi-journée, héros de la première guerre du Golfe, Colin Powell, qui était aussi l'auteur d'un très très gros mensonge devant l'ONU au moment de décider d'une intervention en Irak.
Pendant 90 minutes, le secrétaire d'État va continuer son énumération. Entrave aux inspections, conservation de missiles balistiques, mais aussi cette photo de bunker qui abriterait des centres de fabrication d'armes chimiques. À gauche, la photo satellite aurait été prise le 10 novembre 2002. À droite, le lieu serait le même, un mois et demi plus tard, à l'arrivée des inspecteurs de l'ONU, les bunkers auraient disparu.
On le sait aujourd'hui que c'était un mensonge pour envahir l'Irak. Quelques années après avoir quitté l'administration Bush, Colin Powell était revenu sur cette séquence.
They verified everything that was in that speech. So it was nothing that I made up. It was nothing that I stuck in there. And in fact, some people tried to stick extra things in there that the intelligence community wouldn't verify with multi-sourcing. And I said no. And so when I presented that information, it was information that the president believed in, information that my colleagues in government believed in.
Beaucoup plus récemment, le héros de guerre, donc, ministre républicain ensuite, Colin Powell, avait tourné le dos à son parti et à son candidat Donald Trump pour voter Joe Biden.
Look at what he has done to divide us. Forget immigrants, let's put up a fence in Mexico. Forget this, let's do this. He is insulting us throughout the world. He is being offensive to our allies. He is not taking into account what our foreign policy is and how it's being affected by his actions. And I certainly cannot in any way support President Trump this year.
Colin Powell est décédé de complications liées au Covid-19. Il avait 84 ans.
Ce week-end se tenait à Paris le premier salon du CBD.
C'est du cannabis sans le principe actif connu du cannabis. Alors si vous le découvrez ce soir, c'est la même plante avec un effet détente seulement, figurez-vous. Premier salon du CBD, il n'y avait aucune boutique en 2018. Il y a plus de 850 magasins spécialisés aujourd'hui. On parle d'un marché à près de 300 millions d'euros en France. Il y a même déjà deux magazines qui sont apparus dans les kiosques. Le marché du CBD. Alors Iban Raïs et Camille Schmitt étaient sur place. Vous allez voir qu'on ne parle plus de boire le CBD en tisane, encore moins de le fumer, mais de le manger.
Les Français aujourd'hui ont envie de consommer le CBD, mais de manière différente que celle qu'ils ont connue jusque-là. Vous allez avoir la gélule, mais qui se rapproche psychologiquement un effet de médicament. Aujourd'hui, quand vous mangez un gâteau, c'est plus un effet de plaisir que vous allez avoir, comme un bonbon, comme une boisson, c'est plus un moment de détente.
L'avantage des nourritures, c'est de pouvoir prendre des doses journalières et de pouvoir compter. C'est-à-dire qu'on a un bonbon, on a 10 mg, on a deux bonbons, on a 20 mg, etc. Et ne pas dépasser une certaine dose journalière, de pouvoir les emporter avec soi, de pouvoir les manger à n'importe quel moment de la journée.
Alors là, j'ai des tisanes, j'ai des huiles de CBD. Vous voulez un petit brownie, monsieur ?
C'est un peu trop, mais tout à l'heure. J'ai déjà essayé tes gommes.
C'est vrai qu'on avait les bonbons un peu plus tôt.
J'ai été cobaye tout à l'heure.
Vous en vendez, vous, du CBD ?
Un petit peu, dans parapharmacie, je crois.
En parapharmacie, pas en récréation.
C'est la première fois que je teste.
Vous allez pouvoir partir avec ces brownies et essayer à la maison. Alors, à manger, à boire, des produits cosmétiques aussi, des produits d'hygiène. Alors, si vous n'osez pas encore, vous pouvez toujours essayer sur votre compagnon à quatre pattes.
C'est présenté comme pour les huiles, pour les humains, hein, tout à fait pareil. Sauf qu'on ne peut pas l'utiliser avec une pipette en verre, c'est trop risqué. Donc on a prévu un applicateur que l'on branche dedans, on choisit le dosage et après on peut le donner directement en lingual à l'animal. Ça combat le stress, la perte des poils, l'angoisse lorsque le propriétaire se déplace ou qu'on doit l'amener chez le vétérinaire. Ça peut pallier et aider aussi à la vieillesse, au rhumatisme.
Ça pallie à la vieillesse.
Il faudrait vérifier quand même toutes ces scientifique dans un salon commercial, évidemment, mais enfin, comme tout marché en développement, moi, j'y aurais jamais pensé. Je vous propose de découvrir les vertus sexo du cannabidiol.
Carême, c'est une marque qui a vocation à déstresser les urbains grâce aux chambres. On a sorti récemment l'huile libertine, qui est une huile intime, qui va venir permettre d'accentuer la lubrification, mais aussi de soulager de potentiels inconforts dans la sexualité, de déstresser également les partenaires. C'est un produit qu'on peut ingérer avant l'acte, mais qu'on peut aussi utiliser en application et évidemment qui est propice au sexe oral.
Je pose ça ici sur la table et puis à un moment je tournerai la tête, chacun se servira s'il veut. 10% des Français, figurez-vous, consommeraient de ce chanvre légal qui jouit en réalité encore d'une forme de flou juridique. Le gouvernement réfléchit à durcir les règles du jeu.
Rencontre au Vatican.
La table, non, un peu hésitant.
Rencontre au Vatican entre le pape François et le Premier ministre.
Alors, selon Jean Castex, le souverain pontife a pris conscience qu'il faut concilier droit pénal et secret de la confession. Une visite quelques jours après les révélations du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église. La visite était prévue de longue date. Elle célèbre le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Et comme le veut la coutume, Jean Castex n'est pas venu les mains vides.
Notre-Dame de Paris.
Une édition originale de Notre-Dame de Paris lui a également offert un maillot dédicacé de Léo Messi. Rappelons que François est argentin, évidemment, comme le footballeur, mais c'est l'occasion de revenir, Babette, sur les cadeaux offerts au pape. Vous offririez quoi, vous, à un pape, si vous aviez la chance de le rencontrer ?
Ça dépend si on a gagné avant les 220 000.
ça peut changer la donne.
Question de tout à l'heure.
Je vous l'accorde, ça peut changer la donne. François Fillon, alors Premier ministre, avait offert un CD des musiques d'une abbaye de la Sarthe chez lui. Ce que Benoît XVI avait pu écouter une fois son hôte parti. Nicolas Sarkozy, venu avec Jean-Marie Bigard, si vous vous en souvenez. Le président avait offert son propre livre à Benoît XVI.
Oui,
c'est original. Et puis Evo Morales, quand il était président de la Bolivie, avait offert une croix en forme de marteau et de faucille. Là, c'est un peu plus personnalisé comme cadeau. J'aurais pu vous montrer le livre sur Saint-François d'Assise du président Hollande. Ça, c'est une blague entre François. Les drones aussi offerts par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Mais mon cadeau préféré, évidemment, c'est la Lamborghini de très bon goût offerte par le patron de la marque de voitures de sport. Le pape a béni l'engin.
Il l'a dédicacé aussi. Hein.
Avant de le vendre aux enchères, évidemment, je ne crois pas qu'il ait une grande utilité de cette Lamborghini dans les rues du Vatican.
Ça pourrait être une sacrée papa mobile, ça.
C'est peut-être pas assez sécurisé, figurez-vous.
Le guide Michelin s'installe à Moscou.
En grande pompe. Peut-être encore une idée avec les 220 millions d'euros. Le célèbre guide gastronomique qui a étoilé 9 établissements de Moscou, 2 restaurants, 2 étoiles, une seule étoile pour les autres. On se réjouit sur place de la reconnaissance d'un art culinaire local. 69 établissements au total répertoriés dans le guide Michelin de Moscou, la Russie, qui devient le 35e pays reconnu par le guide. Je reste en Russie, mais je voudrais faire un petit détour. Écoutez bien, par le métro parisien. D'abord, est-ce que vous reconnaissez sur cette photo le ticket de métro parisien de votre enfance ?
Oui.
Parce qu'évidemment, il y a plusieurs générations sur le plateau. Moi, j'ai démarré en jaune, mais les derniers jaunes.
Ah oui,
ah non, moi, le vert.
Le vert,
avec,
moi
le
aussi.
Le vert avec le truc, là.
Ah ben non, mais j'ai connu le vert après. Je suis plus jeune que vous.
Et monsieur Lescure France, mais...
De quoi, le vert?
Ah, le jaune, on n'a pas connu. Pardon, je sais pas.
Le orangé, bon... Ouais. Souvenir d'enfance. Alors, figurez-vous que vous avez entendu parler de ça, le ticket papier va disparaître, on ne vend déjà plus de carnet de tickets de 10 tickets. C'est la modernité, le numérique qui va remplacer le bon vieux ticket de métro. Si je vous en parle, regardez, c'est qu'en Russie, donc, on va beaucoup plus loin. Le métro de Moscou devient le premier à proposer de payer par reconnaissance faciale. Ça fonctionne même avec un masque. La compagnie de transport défend avant tout le côté pratique.
Bon.
Что пассажирам теперь не нужно будет носить с собой ни телефон, ни карту тройка, ни какой-либо еще билет. Они просто должны будут загрузить свою информацию в приложение, свое фото, а также свою банковскую карту. Снимать маску необходимости нет. Также пассажира камера узнает, и он сможет пройти в маске.
Alors, il faut souligner que c'est un procédé extrêmement controversé. D'abord, rassurez-vous, en l'état de la loi, ce serait parfaitement impossible en France. La reconnaissance faciale a déjà été utilisée à Moscou pour arrêter des opposants politiques lors de manifestations. De nombreuses ONG craignent des dérives, une surveillance généralisée et des fuites de données.
Puisqu'on parle de nouvelles technologies, après les supermarchés sans caissière, les supermarchés sans caisse.
Votre concurrent, Michel-Édouard Leclerc, Auchan, expérimente un magasin high-tech. Ça se passe à l'EDEC, l'école de commerce de Roubaix. Alors vous entrez en vous identifiant avec un QR code sur l'application de la boutique. Vous vous servez et vous partez. C'est aussi simple. 28 caméras de surveillance au plafond pour reconnaître les produits que vous sélectionnez. Camille Schmitt et Audrey Payas ont fait leur course avec des étudiants de l'EDEC.
Donc Itri, comment on fait pour rentrer dans le magasin ?
Je scanne ici et après je rentre. Et après, je peux faire mes courses, je prends le produit que je veux, je ressors. Et du coup, ça se déduit automatiquement sur mon application.
Les courses, ça se fait un peu comme d'habitude.
Les courses, ça se fait comme d'habitude. Il y a plein de produits différents. L'EDEC a fait en sorte qu'on ait tout ce qu'on ait besoin le soir si on n'a pas besoin de faire nos courses. C'est hyper pratique pour le déjeuner. C'est moins cher qu'au restaurant et voilà.
Je ne vais pas faire mes grandes courses de la semaine ici. J'ai des œufs, la crème fraîche. Là, c'est plutôt confiserie. C'est pratique parce que c'est sur le campus, on n'a pas besoin de penser à aller en supermarché avant et c'est génial.
Moi là je suis en pleine révision et c'est vrai que les examens approchent et le fait de ne pas perdre de temps pour faire les courses, c'est tout simplement un gain de temps. Pour faire mes courses de manière générale, je sais pas, je prends moins d'une minute presque.
Les caisses, les caissières, tous ces métiers, c'est terminé ?
Non. Non, la fonction d'encaissement, oui, mais on continue à embaucher plus de caissières qu'avant. Enfin, et par contre, c'est une réplique d'Amazon Go. Ça me fout le bourdon, moi. J'espère qu'on va... Je comprends qu'il y a un aspect pratique, mais après, on ne peut pas dénoncer la société de surveillance et puis après s'engouffrer là-dedans. Ça me fait peur de voir tous ces jeunes qui rentrent là-dedans. C'est des caméras partout.
Oui, c'est beaucoup d'informations marketing aussi pour
le comportement. Mais c'est Moscou à Lille. Vous n'avez pas de
caméras dans vos supermarchés, Michel-Édouard Leclerc ?
Si, il y a des caméras de surveillance et tout ça. Mais vous voyez là, ça détecte la reconnaissance faciale, reconnaissance du produit, la manière dont vous achetez.
Vous avez des logiciels qui permettent d'analyser le ticket pour avoir les habitudes du consommateur.
Avec les cartes de fidélité.
Mais tu vois, on en parlait aujourd'hui pour parler des carburants. Nous, tout le monde parle de la data, de la big data, etc. Même chez nous, premier distributeur français, on n'est pas foutu de dire combien de clients qui viennent pour les carburants à la station-service vont aller au supermarché. On n'a même pas ça.
Sauf s'ils utilisent leur carte de fidélité locale.
Mais honnêtement...
Vous n'analysez pas ces données-là.
En 40 ans de métier, j'ai jamais vu une étude chez nous pour ça. Donc, en même temps, je veux dire, s'il suffisait d'avoir des algorithmes pour être un bon commerçant...
Hein, c'est...
Non, Amazon mais... pourrait peut-être vous donner des leçons, non, de marketing.
C'est pas l'avenir, en tout cas.
Bah, j'espère, à titre personnel, j'espère pas.
On continuera à avoir des caissières dans le centre Leclerc. Moi, j'aurais peur de me faire arnaquer, oui, qu'on me fasse payer plus de produits que ceux que j'ai achetés.
On vous montre de la reconnaissance faciale à Moscou. Là, vous dites, totalitarisme. Mmh. On vous le fait chez vous.
Et on dit, comme ça, j'ai plus de temps pour réaliser. Ah ouais.
Moi, j'ai été nourri de la science-fiction. J'ai été nourri de Huxley, de Philippe Van Dyck. Et moi, ça me fait peur.
Bon, merci beaucoup, Mathieu. Il a beau avoir plus de 60 ans, il est toujours en culotte courte et sur les bancs de l'école, sans prendre une ride, ni lui, ni ses petits copains. Eudes, qui donne des coups de poing sur le nez, Alceste, les doigts toujours pleins de confiture, Agnan, la tête à claque, ou Clotaire, le cancre. Le petit Nicolas, apparu pour la première fois dans les colonnes d'un hebdomadaire belge, le moustique, texte signé René Goscinny, dessin Jean-Jacques Sempé.
On fait le petit Nicolas, c'est-à-dire que j'ai écrit des contes que Sempé a illustrés, ce qui leur a valu le succès.
Ça se chante.
Je trouve qu'on ne dit pas assez, vous êtes merveilleux, c'est vraiment grâce à vous.
Un petit peu René Goscinny lorsqu'il était tout petit garçon, c'est ça?
Non, moi j'étais plutôt Alceste. Moi. Ah, Alceste, c'est un petit copain qui mangeait tout le temps.
Je mange pas le misanthrope, mon cher. Non. Rien que pour montrer qu'on a des lettres.
Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
À l'occasion
bonsoir.
Du troisième film adapté des aventures du petit Nicolas, vous y incarnez les parents de ce gentil petit monstre. Jean-Paul, vous succédez d'ailleurs à Can Merad dans ce rôle de papa. C'est pas étonnant que vous succédiez à Can Merad.
Déjà à l'attaque directe. Pourquoi c'est pas étonnant?
Je sais pas, vous avez pas raconté qu'il jouait de plus en plus mal, Can Merad.
C'est une catastrophe, Can. C'est de pire en pire, regardez-le. Mais je crois que c'est un problème de mémoire, d'âge. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'il arrête. Hein. Il va faire bientôt ses adieux au musical et c'est très bien comme ça. Il aura fait une belle carrière, salut l'artiste.
Il était temps que ça cesse, ouais.
Bien sûr.
Bah, bien sûr. D'autant que vous êtes ultra légitime parce que vous connaissiez le petit Nicolas depuis l'âge du petit Nicolas.
Exactement, je l'ai découvert à 10 ans, en folio, c'était en folio junior, je disais le petit Nicolas. J'adore
et vous
ça.
Vous souvenez très précisément de la première fois que vous avez eu un petit Nicolas dans les mains?
Bien sûr, j'étais dans une librairie à Dunkerque qui s'appelait chez Demey, et c'était en sous-sol, il y avait le rayon jeunesse, avec un présentoir là qui tourne, et je me souviens du premier livre que ma marraine m'a offert.
Et du coup, vous avez appelé votre fils Clotaire?
Exactement.
Vous savez, à cause
c'est
du camp.
Mais c'est incroyable.
À
c'est
cause
travail,
du camp.
Ça a beaucoup
un
changé.
Dingue.
Ça bosse à mort maintenant.
Contrairement à Can Merad.
Ah, bien
moi,
sûr.
Je suis sur la pente contraire, opposée. Il descend, moi je
m'en. C'est ça.
Clotaire, à cause du cancre.
Pas que. Mais c'est vrai que ça fait partie, oui, ça fait partie de mon inconscient, de mon univers. Goscinny, énormément, oui. Beaucoup d'admiration pour lui.
Audrey, vous aussi, vous avez baigné toute votre enfance dans l'univers du petit Nicolas.
C'est bien renseigné. Allez, c'est bien renseigné.
Vous n'avez pas lu une ligne petite?
Ben non. J'ai engueulé ma mère parce que je trouve que son anecdote est géniale avec sa marraine.
Pour la promo,
etc.
Ça marche grave.
Et j'ai dit à ma mère qu'il doit me regarder ce soir. Bah, sympa parce que du coup, j'ai rien à raconter. Donc je connais l'univers évidemment de Goscinny, du petit
mais
Nicolas,
pas
etc.
Truc perso.
Donc du coup, je rattrape le coup et je lis les aventures du petit Nicolas à mon petit garçon maintenant.
Donc quand il sera grand et qu'il jouera le petit Nicolas à l'écran, lui il pourra dire grâce à ma mère,
exactement.
Audrey Lamy, l'ami qui
n'est pas
mère.
Le cas de sa grand-mère.
Grand-mère,
voilà.
Qui lui n'avait rien fait pour l'éducation de ma mère. Vous restez avec nous, on parle longuement du petit Nicolas et puis on sera rejoint par l'acteur qui joue le petit Nicolas qui est absolument éblouissant. À tout de suite pour Le Vu, les actualités de Bertrand, l'œil de Pierre et la story média de Mohamed Bouafsi. Merci messieurs Michel-Edouard Leclerc et Alexandre Alain.
Merci.